Qui ? La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots qui va aujourd'hui focaliser son attention sur l'illettrisme et en particulier les actions qui sont menées pour lutter contre l'illettrisme. Alors, l'actualité nous y invite puisque depuis deux jours, depuis le 8, ont commencé les journées nationales d'action contre l'illettrisme toute une semaine jusqu'au 15, pendant lesquelles auront lieu des colloques, des réunions. On va réfléchir, on va évaluer l'illettrisme, on va imaginer d'anciennes et de nouvelles manières de lutter contre l'illettrisme et puis on va se mettre à agir, parce que l'illettrisme en effet est un fléau d'autant plus difficile que de temps en temps il est sous-estimé, presque invisible, parce que les gens qui justement sont illettrés en ont très souvent honte, et au lieu d'essayer, mais c'est facile à dire, hein, de lutter contre cette absence de capacité, eh bien ils le cachent et ils se fondent dans la muraille. Alors pour parler de tout ça, nous allons nous entretenir avec Michel Nedelec après avoir entendu un petit son sur lequel nous allons réagir.
Il était une fois un pays où 2,5 millions de personnes ne savaient ni lire ni écrire. Elles avaient appris dans leur enfance et puis au hasard de la vie, elles avaient peu à peu oublié. Ce pays aux 2,5 millions d'adultes en situation d'illettrisme n'a hélas rien d'imaginaire. C'est la France. Cette année, l'illettrisme a été déclaré grande cause nationale grâce au collectif fédéré par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Quel que soit l'âge, des solutions existent. Pour mieux les faire connaître, des assises se tiennent aujourd'hui en région. Alors vous aussi, pour que l'histoire finisse bien, mobilisez-vous sur illettrisme2013.fr.
Cette petite capsule qu'on vient d'entendre, elle n'est pas toute récente, elle date de 2013, mais elle semble encore tout à fait d'actualité. Michel Nedelec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur des actions nationales et territoriales contre l'illettrisme. Vous travaillez donc à l'ANLSI, c'est-à-dire l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Voilà un mot que j'ai prononcé peut-être 15 fois en 3 minutes. Et sur lesquels j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, mais en fait, parfois on croit le comprendre alors qu'on a des idées imparfaites. Dites-nous un petit peu ce que c'est en fait que l'illettrisme.
Alors, vous avez eu tout à fait raison lors de votre introduction de préciser que c'était un problème important qui est encore souvent mal connu. Les Québécois disaient encore il y a quelques années que c'était un problème criant qui se tait.
Ouais, c'est une belle formule.
C'est une belle formule de nos amis québécois. Donc quand on parle d'illettrisme, c'est une position un peu singulière que nous avons en France depuis quelques dizaines d'années déjà. Nous avons fait le choix, contrairement à d'autres pays qui parlent d'un alphabétisme fonctionnel, d'un alphabétisme de retour, nous avons fait le choix de singulariser cette situation que connaissent des personnes qui ont été scolarisées, qui ont en termes de durée, sont allées sur les bancs de l'école pendant 6 ans, 8 ans, 10 ans, et qui, à la sortie de la scolarité obligatoire, de leur scolarité obligatoire, ne sont pas autonomes dans des situations courantes de la vie quotidienne. Donc c'est vrai que cette simple définition permet déjà de bien comprendre pourquoi c'est un problème qui est si difficile à avouer, pourquoi il est si difficile d'oser le dire, car dans un pays où très régulièrement on nous rappelle que les dépenses d'éducation font partie des premières dépenses de l'État et des collectivités territoriales, il est difficile pour une personne d'oser dire qu'elle est allée à l'école et qu'à la fin de cette scolarité, elle n'est pas, par exemple, en capacité de retirer de l'argent seule à un distributeur automatique de billets, elle n'est pas en capacité de lire une notice simple pour un appareil électroménager, pour un médicament, elle n'est pas capable, lorsqu'elle est en situation de travail, de comprendre des messages importants qui sont les messages de sécurité. Donc c'est une personne qui...
parfois de lire le nom des stations de métro pour savoir où est-ce qu'il faut changer, parce que ça prend un certain temps pour
prendre
le lire.
Un billet.
Oui,
ou sur un distributeur. Souvent qu'aujourd'hui, pour ces personnes-là, c'est devenu de plus en plus difficile. On aura peut-être l'occasion de parler de la numérisation de la société, mais acheter un billet de train avec quelqu'un de vivant qui parle derrière le guichet, ça devient de plus en plus difficile, notamment dans les petites gares régionales. Donc ces personnes-là se trouvent de plus en plus démunies face à des situations où, contrairement à ce que l'on croit, l'écrit est de plus en plus présent.
Oui, parce que pendant longtemps, on a dit, on entre dans la civilisation de l'image. En fait, et surtout depuis les progrès informatiques et depuis l'invasion de ces technologies dans nos vies, l'écrit est devenu de plus en plus envahissant.
Et oui, on rappelle à travers une charte qu'on a proposée à la signature de plus de 70 de nos partenaires il y a 3 ans, pour que le numérique profite à tous, on rappelle que 80% environ du contenu web est du contenu écrit. Donc une personne qui est en difficulté avec l'écrit est aussi en difficulté pour entrer dans un usage simple de ces outils.
Alors Michel Nedelec, cela veut dire aussi qu'on peut avoir en France, puisque là on parle essentiellement de la France, un problème d'illettrisme, des illettrés, mais aussi des gens qui sont analphabètes, c'est-à-dire qui n'ont jamais fréquenté l'école, notamment si on pense à des gens qui arrivent de l'étranger, qui arrivent d'une culture ou d'une langue qui n'est pas le français, et qui arrivent parfois avec une langue maternelle qui ne s'écrit pas ou qui s'écrit peu.
Alors c'est vrai que lorsqu'on
présente, c'est un autre problème. Quoi.
C'est un autre problème. Une personne qui les deux autres situations que vous avez évoquées, le français et langue étrangère, c'est celle que nous vivrions nous lorsque nous devrions c'était une obligation rejoindre un pays étranger. Ce sont des personnes qui ne parlent pas notre langue, mais qui, et c'est important ce que je vais dire là, mais qui n'ont pas nécessairement et automatiquement des problèmes de compétences de base. Ce sont des personnes qui ont parfois un parcours scolaire très riche et qui ont besoin d'apprendre le français comme une langue étrangère. Alors certes,
qui n'héritent pas de cette situation qui symbolise un échec d'une certaine façon. Qui n'hérite pas cette situation que vous évoquiez, voilà, qui symbolise un échec parce que on a été à l'école, mais pas suffisamment, mais pas avec des résultats suffisants pour que il y ait quelque chose qui se soit gravé, qui se soit imprimé de façon définitive dans son cerveau.
Voilà, c'est ça. Les personnes en situation d'illettrisme sont, j'aime à le dire de cette façon-là, sont des personnes qui, dans leur vie, dans la première partie de leur vie, hein, je serais même tenté de dire, dès la naissance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, qui marque cette période où l'on considère qu'une personne est ou pas en situation d'illettrisme, ont vécu des passages qui se sont pour elles transformé en rupture. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un environnement social, économique, familial, qui ne permet pas de disposer des mêmes ressources que tout un chacun, toutes ces périodes, l'entrée dans les structures collectives, lorsqu'on est un petit enfant, l'entrée à l'école, l'entrée à la grande école, comme on le dit encore parfois, l'entrée en sixième, toutes ces entrées, tous ces passages deviennent pour ces personnes parfois mal accompagnées ou avec des difficultés au niveau de leur accompagnement, peuvent devenir petit à petit en situation d'illettrisme.
Alice Eyes avec le pianiste Gonzalez dans la danse des mots qui aujourd'hui se penche sur les problèmes de la lutte contre l'illettrisme puisque c'est la semaine qui est consacrée justement à la réflexion sur comment lutter contre ce fléau. On pourra voir un certain nombre de films, en particulier Illettré de Jean-Pierre Améris à partir d'un livre de Cécile Ladjali. Un autre film qui est Les orages, ça finit par passer. Puis un livre qui a été édité aux éditions de La Passe du Vent et qui a été coordonné par Michel Knebuller, qui s'appelle « Détour et déclic » et qui se centre de façon particulière sur tous les projets artistiques et culturels qui sont mis en œuvre pour lutter contre l'illettrisme. Alors, Eric Nedelec, qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous avez l'impression que de temps en temps, c'est une bonne chose de jouer de façon un petit peu indirecte? Non pas de dire aux gens, vous pourrez prendre votre billet, vous pourrez déclarer, demander le RSA plus facilement, etc. Mais justement, on vous propose un projet artistique qui en même temps va vous aider à lire, à écrire, à être plus à l'aise avec tout ça.
Alors, c'est vrai que le titre du livre que vous évoquez, coordonné là par Michel Knebuller, et je dirais ce titre-là résume ce qu'est l'action culturelle pour la lutte contre l'illettrisme. C'est à la fois un détour nécessaire pour valoriser les capacités, parfois les expériences créatrices d'un certain nombre de personnes en situation d'illettrisme, parce que rien n'empêche une personne en situation d'illettrisme d'avoir elle aussi des envies, des besoins, des qualités artistiques. Hein. Je fais partie d'un jury littéraire qui propose un concours littéraire en milieu carcéral et les personnes, les détenues qui sont en situation d'illettrisme produisent des textes poétiques, alors parfois sous la dictée, parce qu'ils ne maîtrisent pas le geste graphique, ils sont d'une qualité poétique assez exceptionnelle. Donc c'est un détour. On peut, en conduisant, en facilitant l'accès à des actions culturelles pour des personnes en situation d'illettrisme, on peut à terme leur faire prendre conscience que si elles veulent aller plus loin, être autonomes pour s'inscrire par exemple à l'abonnement d'une saison culturelle dans leur ville, elles ont besoin de passer aussi par l'écrit. Donc c'est un détour, mais c'est aussi, et c'est le deuxième mot-clé de ce livre, c'est un déclic. C'est un déclic parce que l'action culturelle participe à la valorisation des personnes, participe à ce qu'on appelle, nous, cette démarche qui, en les revalorisant, leur permet de se redresser, hein, de cesser, comme le dit, on avait fait il y a quelques années un petit film où on voit un adulte en situation d'illettrisme qui dit « Avant, je regardais par terre, maintenant, je regarde devant. »
Les orages, ça finit par passer. Après, il y a le soleil. Je me rappelle, en CP, j'étais malheureux. Je parlais pas correctement le français. J'avais pas d'amis. Tous les autres camarades me traitaient d'handicapé.
J'en ai eu marre de savoir rien du tout, quoi.
J'avais honte de pas savoir lire ni écrire.
Tout seul, c'est tout ça. Quand on sait pas lire et écrire, on est paumé. On sait rien. On est perdu.
J'aimerais bien m'échapper de la détention, en fait. Mais pas avec un titre qui a un rapport avec la détention. Penser à un moment que la réinsertion puisse passer par l'écriture, c'était pas facile à croire, hein, en fait. Mais en fait, si.
Ça m'a aidé à gérer la frustration, la contrariété.
Ça m'a permis de me libérer, de voir comment les autres se libéraient.
Victor Hugo a dit « Lire, c'est comme manger et boire. »
Je sens, je fais quelque chose pour moi.
Ça donne de l'espoir en réalité, ça donne de l'espoir, c'est ça. C'est le mot, c'est espoir en fait.
On vient d'entendre un extrait donc de ce film, Détour et déclic. Ce qui est étonnant, c'est que pratiquement toutes les phrases sont au passé. J'avais l'impression que je ne savais pas écrire, etc. Ce qui montre bien que, pour tous ceux qui témoignent en tout cas, il y a eu un tournant, ce déclic dont vous parliez. Ouais. Alors, ça, faut pas faire de la psychologie à la petite semaine, mais quand même, c'est intéressant parce que ça montre que pendant très longtemps, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une fatalité, qu'ils peuvent pas s'en sortir, et que de temps en temps, il y a une prise de conscience que si, après tout, d'une certaine façon, en travaillant, etc., on peut changer la donne.
Voilà, on peut s'en sortir. Beaucoup d'adultes disent aujourd'hui, ceux qui sont sortis de l'illettrisme, il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais à un moment donné, et c'est important, et c'est d'ailleurs tout le sens de notre campagne de mobilisation que vous avez évoquée au début de cette émission, c'est de dire que face à l'illettrisme, vous n'êtes pas seul. Le premier déclic qui se produit chez ces personnes qui, pendant des années, ont essayé de cacher dans leur environnement familial, personnel, professionnel, cette situation, c'est de prendre conscience que elles sont nombreuses, très nombreuses, trop nombreuses. 2 500 000 adultes dans notre pays en situation d'illettrisme, c'est un chiffre qui donne le vertige.
Ça fait autour de 7% de la population.
Ça fait 7% de la population active, mais faut savoir que la situation s'améliore, puisque il y a 10 ans, quand on avait réalisé cette même enquête avec les mêmes outils de mesure avec l'INSEE, on était à 9% de la population active, soit 3 100 000 adultes. Ça veut dire que la situation.
Il y a encore beaucoup à faire, mais progrès est quand même très net.
Le progrès est très net.
Ah oui, de 9 à 7. C'est très sensible quand même.
Il est très net. Pourquoi ? Parce que c'est un problème qui aujourd'hui, un peu plus qu'hier, posé sur la place publique. C'est un problème dont...
On a moins peur de l'affronter.
On a moins peur de l'affronter et surtout, on a décidé d'agir en se disant qu'il faut d'abord montrer les solutions qui existent. On a aussi décidé d'agir en se disant qu'il fallait cesser de perdre du temps en d'éternels débats sémantiques sur des définitions. Aujourd'hui, on a une définition qui est stable, une définition qui est connue, qui est reconnue, qui est acceptée de tous. Et quand je dis de tous, c'est tous les ministères qui sont concernés par ce sujet. Toutes les organisations, qu'elles soient associatives ou les organisations publiques avec lesquelles nous travaillons, cette définition, celle que j'ai donnée au début, est celle qui permet, lorsqu'on veut agir, d'être directement dans l'action. De ne pas perdre du temps en des débats qu'on aime beaucoup dans notre pays, surtout sur ces questions sémantiques. Et on a donc aujourd'hui une définition stable et on a des données fiables. Parce que pendant longtemps, on a cru, que lorsqu'on interrogeait parfois des personnes dans la rue et qu'on leur demandait de tresser le portrait robot pour elles d'une personne en situation d'illettrisme, il arrivait régulièrement qu'elles parlent d'un jeune vivant en banlieue, issu de l'immigration et utilisant de façon intensive les outils numériques.
Vous avez l'impression que le stéréotype cache la diversité du réel, en fait.
Ce portrait robot est complètement faux. Ce sont plutôt des personnes qui ont plus de 45 ans. Ce sont plutôt et majoritairement des personnes qui vivent dans les zones rurales et faiblement peuplées. Ce sont majoritairement des personnes qui travaillent, qui sont en activité professionnelle. Et ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont confrontées aux outils numériques, ont elles aussi des difficultés. Donc, parce qu'on entend souvent dire, notamment pour les jeunes, que c'est la surutilisation de ces outils qui provoque l'illettrisme. Les jeunes qui sont en difficulté avec l'écrit sont aussi en difficulté avec le numérique. Donc
c'est important. C'est différent, mais en fait, c'est le même genre de mécanisme. C'est une lecture aussi.
C'est une lecture. Oui. C'est ce qu'on a tendance un peu trop rapidement à oublier. Donc aujourd'hui, si les efforts qui sont commis par nos partenaires commencent à porter les fruits, vous avez tout à fait raison de le dire. Il ne faut pas baisser les bras.
Alors, il faut de l'optimisme. En même temps, il ne faut pas d'angélisme.
Il ne faut pas d'angélisme.
Vous soulignez tout à fait à juste titre, Eric Nedelec, qu'il y a une grande partie des gens qui sont soumis à ces problèmes d'illettrisme qui ont un certain âge. Est-ce que les modes d'accès, les modes d'action justement pour lutter contre l'illettrisme avec des gens qui ont 40, 45, 50 ans ou un peu plus sont différents de ceux qu'on peut imaginer avec des jeunes gens ?
Alors, bien évidemment que plus on avance en âge, plus c'est dur.
C'est possible, mais c'est quand même plus dur, bien sûr.
Et c'est pour ça que je reviens sur ce mot.
Parce qu'on est moins souple.
Sur ce mot qui est magnifique, déclic. Parce que j'ai été aussi dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai été formateur. Et on n'imagine pas, tant qu'on l'a pas vécu directement, comment se produisent ces déclics. Et quand le déclic se produit, c'est-à-dire quand la personne se redresse, quand la personne commence à vous regarder dans les yeux et à comprendre que vous la considérez comme une personne qui sait... Parce que les personnes en situation d'illettrisme, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, sont des êtres de culture, des êtres qui sont tout à fait capables de développer d'autres intelligences, ils les ont même surinvestis, et parce qu'on commence avec ces personnes, notamment dans le monde du travail, en pointant du doigt ce qu'elles savent faire, ce qu'elles maîtrisent. parce que cela permet en même temps de montrer que leur évolution va être freinée par cette difficulté qu'elles ont avec l'écrit. À un moment donné, il y a cette lumière qui s'allume dans le regard de ces personnes, et j'ai en mémoire cette femme d'ailleurs qu'on voit, je crois, dans le film de Les orages, ça finit par passer, qui explique qu'après être sortie de l'illettrisme, parce qu'elle était déjà passionnée de poésie, tout en étant en situation d'illettrisme, elle a dévoré le rayon poésie de la médiathèque de sa petite ville. Elle a tellement dévoré que aujourd'hui, elle est obligée de s'inscrire dans d'autres médiathèques parce que elle a fait le tour de ce rayon. Je trouve que c'est un bon exemple qui illustre ces déclics qui peuvent se produire.
Ça illustre aussi le fait que justement, dans votre lutte contre l'illettrisme, vous allez privilégier les pratiques culturelles et artistiques, comme si c'était plus valorisant et comme si c'était plus efficace de s'adresser à ça qui peut paraître superflu, mais qui est un espèce de plus de vie. Savoir lire, ça sert pas uniquement à avoir la location au logement et le deux pièces qui... Bien sûr, ça sert à ça.
Tout à fait.
Mais si justement on peut y arriver, bah, c'est peut-être par la poésie, ou tout à l'heure vous mentionniez ce concours littéraire en prison. Qu'est-ce qu'il y a comme autre type d'action? Donnez-nous des exemples concrets de ce qui se fait.
Alors, toutes ces actions qui sont celles qui participent à la prévention et à la lutte contre l'illettrisme, comme vous le disiez, on va leur donner un coup de projecteur cette semaine. Ce sont des actions qui, pour la grande majorité d'entre elles, qu'elles se situent sur la petite enfance ou sur l'enfance, l'adolescence ou pour l'âge adulte, sont des actions qui sont de droit commun, des actions qui existent, mais des actions qui très souvent sont totalement inaccessibles pour les personnes concernées. Une des actions dont j'aime beaucoup parler, parce que on commence très tôt, il faut commencer très tôt, ce sont ces personnes, des bénévoles ou des professionnels de la littérature de jeunesse qui, avec un panier d'albums, vont dans des salles d'attente de PMI où les mamans et les papas sont là avec le bébé, on attend et on partage à
PMI,
ce moment-là.
PMI, c'est la protection maternelle et infantile.
Et là, on partage un moment de lecture plaisir. Et beaucoup de ces papas et de ces mamans, certains nombres d'entre eux sont en difficulté, et les premiers déclics dont je vous parlais peuvent se produire ici. Et ce qui est important, c'est que, comme vous le disiez, l'action culturelle n'est pas périphérique, c'est essentiel, mais c'est surtout, ce qui est essentiel, c'est que les actions de lutte contre l'illettrisme sont toutes connectées les unes avec les autres. On est dans une approche qui doit être autant que possible plus collective. C'est-à-dire que ce papa ou cette maman qui a été remis en confiance grâce à l'animation qui se déroule dans cette salle d'attente de la salle de protection maternelle et infantile est aussi un salarié. Et il va se sentir à un moment donné légitime, autorisé à peut-être lui aussi, en tant que salarié, demander, essayer d'avoir recours à ce qui relève du droit de la formation. Donc aujourd'hui, l'importance pour la lutte contre l'illettrisme, c'est bien cette approche collective.
Une approche collective qui peut se faire à peu près n'importe où, donc.
N'importe où.
N'importe où dans le tissu social.
Dans le tissu social, j'ai l'habitude de dire, moi, que tous les espaces de vie et tous les temps de vie doivent être interconnectés. C'est-à-dire qu'on est à la campagne, on est dans les zones urbaines sensibles, il ne faut jamais les oublier, dans les territoires ultramarins. Aujourd'hui, parmi les territoires qui sont les plus mobilisés sur cette campagne-là, on a l'île de la Réunion, on a Mayotte aussi, qui est très mobilisée sur cette question-là. Et partout où on met en place des actions, les actions les plus simples sont parfois les plus efficaces.
Merci beaucoup, Éric Nedelec, de nous avoir dit tout ça. Je rappelle que c'est cette semaine que se déroulent ces journées de lutte contre l'illettrisme. Et il est temps maintenant, dans la danse des mots, de retrouver notre séquence Ma parole avec un jeune lycéen amoureux de la langue française.
Ma parole, ça t'apprendra.
Amir Ferry, bonjour.
Bonjour, monsieur Yvon Amar.
Merci beaucoup de participer à notre séquence Ma parole. Vous êtes un jeune lycéen, vous faites vos études à Paris, et je sais que, assez récemment, vous avez travaillé pour l'image de la langue française, et en particulier ailleurs qu'en France, aux États-Unis. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous avez fait et comment tout ça a pu se monter.
C'est ça, exactement. Alors, la langue française, elle me passionne beaucoup, parce que depuis l'enfance, c'est la langue qui m'a permis d'exprimer ma voix. C'est la langue qui m'a permis d'exprimer ma parole.
Alors, je sais que vous êtes d'origine tunisienne. Quelle est votre langue maternelle? C'est le français ou l'arabe?
Je dirais plutôt que c'est la langue française. Vous savez, la première langue que j'ai apprise, c'est la langue kurde, parce que ma mère est kurde irakienne. Mais ensuite, mon père a insisté pour que j'apprenne la langue française et que ça puisse m'ouvrir un peu les portes de ce beau monde que, dans lequel nous vivons. Et à chaque fois, en fait, que je rentrais de l'école primaire ou bien du collège, parce que j'ai étudié jusqu'à l'âge de 12 ans en Tunisie, je me retournais vers mon père et je lui parlais en français. J'essayais de nouer ces petits contacts. Et il y a l'amour paternel qui s'est construit à travers les mots de la langue française.
Votre langue familiale, c'est le français.
C'est ça, exactement. Ouais. Et à chaque fois que je pensais, ou bien que je rêvais, c'était en français. Les mots, ils avaient une puissance magique, un pouvoir que je ne peux pas identifier d'ailleurs ni expliquer, mais ça me faisait vraiment quelque chose de magique.
Et aujourd'hui, donc, ça vous arrive de rêver en kurde ou en arabe ?
Mais bien sûr, d'ailleurs, on peut rêver en toutes les langues. Là, actuellement, j'apprends...
Il faut les connaître. On ne peut pas rêver dans les langues inconnues.
Bien sûr, quand on connaît. Alors là, actuellement, j'essaye d'apprendre ma 7e langue, donc le chinois, et voilà.
Parce que vous en parlez déjà 6 ?
C'est ça, exactement.
Alors, quels sont ces 6? Alors, on a vu le français, le kurde, l'arabe tunisien.
L'anglais, l'arabe, l'allemand et un peu le latin. Voilà.
Le latin, vous le parlez ?
Non, c'est plutôt en fait compréhension de la grammaire, parce qu'on peut pas en fait apprendre les langues indo-européennes sans passer par le latin. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis allé exprimer lorsque j'ai essayé de travailler un tout petit peu sur la francophonie. C'est parti d'une initiative personnelle à Hong Kong avec Madame le Consul de France. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire quand même pour que les jeunes qui sont à l'étranger et qui ont par exemple un parent français puissent avoir un lien avec la France? Et là, je suis allé, par exemple, à la rencontre des jeunes aux États-Unis, et je leur ai dit, mais elle symbolise quoi pour vous, en fait, la langue française, vous qui vivez, par exemple, à Los Angeles, qui parlez l'anglais entre vous, avec vos enseignants. Et ça, c'était un bel échange.
Alors, quel type de jeunes est-ce que vous avez rencontré aux États-Unis, justement? C'était pas n'importe qui.
Non, pas du tout. Alors, j'ai commencé par les étudiants des universités de Georgetown et Stanford. Donc là, le contact était difficile parce que...
Des étudiants quoi? Des étudiants en langue française, en littérature française? Non, pas forcément.
Parfois, qui maîtrisent uniquement la langue anglaise, mais qui prennent en fait la langue française comme langue d'immersion. Voilà, donc ils font leur petit début, et là il fallait parler en anglais pour tourner autour de la francophonie. C'est assez difficile, mais on veut leur faire croire que on veut tout d'abord garder en fait l'idée que toute langue a son importance, que toute langue elle nous permet de communiquer avec autrui, mais on veut leur permettre aussi de savoir que la langue française elle a un attachement particulier, et notamment cet attachement il se présente par exemple lors de la littérature, lors des différents mouvements connus, les différents registres, et comment en fait la littérature française peut rester comme un monument que l'on peut étudier pour connaître les différents siècles et leur évolution.
Oui, mais bien il y a ça dans la littérature anglaise,
tout
allemande, arabe. La littérature française n'est pas forcément
la
en
meilleure,
soi
non plus.
Supérieure aux autres.
Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Ouais.
Alors, comment est-ce que vous avez été reçu? Vous êtes jeune, vous avez une quinzaine d'années, vous avez été voir des étudiants américains qui étaient plus âgés que vous,
ça,
qui avaient sûrement plus d'expérience.
Mais
et alors, qu'est-ce que vous leur avez dit, justement, parce que c'est bien votre but, je crois, pour leur faire aimer la langue française, pour leur faire désirer le français?
Alors, j'ai commencé par diffuser un petit clip. Voilà, alors ce clip, il va beaucoup inspirer parce que j'ai choisi en fait différentes images de la France, par exemple le Café de la Paix à l'Opéra, voilà, des choses qui représentaient vraiment notre culture, mais qui pouvaient aussi montrer notre ouverture, parce que, comme l'a dit Monsieur le Président de la République, il n'y a pas une culture française, mais il y a une culture en France et elle est diverse. Et on voulait montrer que la culture française, eh bien, elle acceptait beaucoup, et elle voyait beaucoup de différences en elle. Et c'est ça ce qui fait sa beauté. Quand quelque chose, il y a de tout, eh bien c'est beau, voilà.
Je crois que vous avez été... reçu dans les alliances françaises aussi aux
tout
États-Unis.
Tout à fait, 120 alliances françaises, mais j'ai pas pu toutes les faire, donc
c'est
normal. En plus, je vais au lycée, mais j'en ai fait 6. Et à chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui étaient très très bien. On a un investissement presque bénévole des enseignants pour faire véhiculer la langue française.
Mais ce qui est assez... investissement bénévole, vous allez fort, c'est leur métier quand même. Ils sont pas bénévoles, ils sont payés. Hein.
Mais parfois, ils ont un autre métier en parallèle. Et c'est ça ce qui est beau, c'est de pouvoir se dire. Mais pourquoi je fais uniquement ça dans la vie? Je pourrais faire autre chose également et je peux défendre la langue française. Mais il y a des petits soucis, c'est-à-dire que tous les moyens ne sont pas offerts et c'est actuellement ce que demande par exemple la délégation de l'Alliance française à Washington.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci Amir Ferry, donc, et merci à vous Eric Nedelec de nous avoir parlé de cette semaine nationale d'action contre l'illettrisme en France dans La Danse des Mots, qui est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Marjorie Bertin, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yves